Quand la victoire fut enfin acquise, les nains qui restaient se réunirent à Azanulbizar. Ils prirent la tête d'Azog et lui enfoncèrent dans la bouche la bourse de menue monnaie qu'il leur avait remise, puis ils plantèrent la tête sur un pieu. Mais il n'y eut cette nuit-là ni festin ni chanson, car le nombre de leurs morts était plus incommensurable que le deuil. À peine la moitié d'entre eux, dit-on, pouvaient encore tenir debout ou aspirer à la guérison. Au matin, toutefois, Thrain se tint devant eux. Il était éborgné, et une blessure à la jambe le faisait boiter. Mais il dit
« Bien, la victoire est à nous, Khazad-dûm aussi !»
Mais ils répondirent
« Vous êtes peut-être l'héritier de Durin, mais même borgne, vous devriez voir plus clairement. Nous avons livré cette guerre par vengeance, et nous l'avons obtenue, mais elle n'est pas douce. Si c'est là une victoire, nos mains sont trop petites pour la saisir. »
Et ceux qui n'étaient pas du peuple de Durin dirent en outre « Khazad-dûm n'a jamais été la maison de nos pères. Qu'avons-nous gagné sinon un espoir de richesse? Mais s'il nous faut maintenant partir sans récompense et sans compensation pour nos pertes, plus tôt nous aurons regagné nos foyers, plus nous serons satisfaits. »
Alors Thrain se tourna vers Dain.
« Serais-je donc abandonné par mes propres parents ? » demanda-t-il.
« Non, » répondit Dain.
« Vous êtes l'ancêtre de notre peuple. Nous avons saigné pour vous, et nous saignerons encore. Mais nous n'entrerons pas à Khazad-dûm. Moi seul ai regardé dans l'ombre de la porte. Au-delà de cette ombre, il vous attend encore, le fléau de Durin. Le monde devra changer et voir un nouveau pouvoir apparaître, autre que le nôtre, avant que le peuple de Durin ne revienne en Moria. »
Ainsi, après Azanulbizar, les nains se dispersèrent de nouveau. Mais d'abord, ils entreprirent la pénible tâche de dépouiller tous leurs morts afin que les orques ne puissent venir faire provision d'armes et d'armures. Tous les nains qui rentrèrent de ce champ de bataille, raconte-t-on, ployaient sous un lourd fardeau. Puis, ils élevèrent maints bûchers et y incinérèrent les corps de leurs semblables. Bon nombre d'arbres furent abattus dans la vallée, qui demeura à jamais nue, et la fumée du brasier fut aperçue en Lorienne. Les nains se désolèrent de ce traitement réservé à leurs morts, contraire à leur coutume. Mais il aurait fallu plusieurs années pour aménager des tombes comme celles qu'ils construisaient d'ordinaire, car ils n'ensevelissaient leurs morts que dans la pierre, non dans la terre. Ils eurent donc recours au feu, plutôt que de laisser leurs semblables à la merci des bêtes, des oiseaux et des orques charognards. Mais le souvenir des morts d'Azanulbizar était honoré. Ainsi, encore de nos jours, un nain dira fièrement de l'un de ses ancêtres « C'est un nain brûlé !» Et cela veut tout dire. Les horribles feux réduits à l'état de cendres, les alliés regagnèrent chacun leur pays, et Dain Pied-de-Fer ramena les gens de son père jusqu'aux collines de fer. Alors, debout près du grand pieu, Thrain dit à Thorin l'écu de chêne
« D'aucuns diraient que cette tête fut chèrement payée. Nous, du moins, l'avons payé de notre royaume. Reviendras-tu avec moi à l'enclume, ou iras-tu quémander ton pain aux plus augustes portes ?»«
À l'enclume, » répondit Thorin. « Le marteau tout au moins préserve la force des bras, jusqu'au jour où ils pourront manier de plus tranchants outils. »
Or donc, Thrain et Thorin, avec ce qui restait de leurs suivants, parmi lesquels se trouvaient Balin et Gloin, retournèrent en Dunland. Mais ils repartirent peu après, errant de par l'Eriador, avant de poursuivre leur exil dans une nouvelle demeure à l'est des Eredluin, au-delà du Lûn. Et s'ils forgeaient surtout le fer à cette époque, ils prospérèrent comme ils purent, et leur population s'accrut lentement. Mais comme l'avait dit Thror, il fallait à l'anneau de l'or pour engendrer de l'or, et de ce métal, comme de tout autre métal précieux, ils étaient largement, sinon entièrement dépourvus. Il convient de parler ici de cet anneau en bref. Les nains du peuple de Durin croyaient qu'il s'agissait du premier des sept à avoir été forgé. Et ils disent qu'il fut offert au roi de Khazad-dûm, Durin III, par les forgerons elfes eux-mêmes et non par Sauron, bien qu'il fût sans doute imprégné de son pouvoir maléfique, car il prit part à la façon de tous les sept. Mais ceux qui le détenaient ne le montraient jamais,
et n'en parlaient pas, et la plupart ne s'en séparaient qu'à l'article de la mort, si bien qu'on ne savait jamais vraiment qui en était le dépositaire. Certains croyaient qu'il était resté à Casa Doum, dans les tombeaux secrets des rois, à supposer qu'ils n'eussent pas été découverts et pillés. Mais chez les proches de l'héritier de Durin, on croyait, à tort, que Thror le portait le jour où il eut l'impudence de retourner là-bas, et on ignorait ce qu'il était devenu. Il ne fut pas retrouvé sur le corps d'Azog. Il se peut bien toutefois, comme les nains le pensent aujourd'hui, que Sauron, par le biais de ses artifices, ait découvert qui était en possession de cet anneau, le dernier qui demeura libre, et que la singulière infortune des héritiers de Durin ait été due en grande partie à sa malveillance. Car les nains s'étaient révélés indomptables par ce moyen. Le seul pouvoir que les anneaux exerçaient sur eux consistait à attiser en leur cœur la convoitise de l'or et d'objets précieux, de sorte que, à défaut de ceci, toutes les autres bonnes choses paraissaient sans valeur et ils ressentaient une vive colère et un désir de vengeance contre tous ceux qui les spoliaient. Mais ils sont, depuis leur commencement, car c'est ainsi qu'ils ont été faits, d'une trempe farouchement résistante à toute domination. On pouvait les tuer ou les mutiler, mais on ne pouvait les réduire à des ombres soumises à une autre volonté. Et aucun anneau, pour cette même raison, n'avait d'effet sur leur longévité, en l'augmentant ou en l'écourtant. Sauron n'en haïssait que davantage leurs détenteurs et cherchait d'autant plus à les déposséder. Peut-être le pouvoir maléfique de l'anneau est-il donc en partie responsable de l'agitation et du mécontentement que l'on observa chez Thrain au bout de quelques années. La convoitise de l'or hantait sans cesse ses pensées. Enfin, n'y tenant plus, il tourna ses pensées vers Erebor et résolut d'y retourner. Il ne dit rien à Thorin du trouble qui l'agitait, mais avec Balin, Dwalin et quelques autres, il se leva, fit ses adieux et s'en alla. On sait peu de choses de ce qu'il advint de lui ensuite. Il apparaît aujourd'hui que, aussitôt parti de chez lui avec ses quelques compagnons, il fut pourchassé par les émissaires de Sauron. Poursuivi par des loups, assailli par des orques, traqué du haut des airs par des oiseaux funestes, il s'efforça d'aller au nord, mais ses malheurs ne firent qu'empirer. Il vint une nuit sombre où lui et ses compagnons se trouvaient à errer dans le pays au-delà de l'Anduin, lorsqu'une pluie noire les poussa à chercher refuge sous les frondaisons de grand-peur. Au matin, Thrain avait disparu du campement, et ses compagnons l'appelèrent en vain. Ils le cherchèrent pendant bien des jours, après quoi ils perdirent espoir et rentrèrent finalement auprès de Thorin. Ce fut seulement bien plus tard que l'on apprit que Thrain avait été capturé vivant, emmené et jeté dans les culs de Basfos de Dol Guldur. Là-bas, il fut torturé, dépouillé de l'anneau et livré enfin à la mort. Ainsi, Thorin l'écu de chêne devint l'héritier de Durin, mais un héritier sans espoir d'héritage. Quand disparut Thrain, il avait 95 ans, et c'était un nain illustre et de fière allure, mais il paraissait satisfait de demeurer en Eriador. Là, il travailla dur et s'enrichit tant qu'il le put par le commerce, et son peuple s'accrut dans l'affluence des gens de Durin, qui avaient entendu parler de son établissement dans l'ouest et qui vinrent à lui dans leurs errances. Et voilà qu'ils avaient de belles demeures dans les montagnes et abondance de biens, et leurs jours ne leur semblaient pas si sombres, bien qu'ils n'aient cessé d'évoquer dans leurs chants la montagne solitaire au loin. Les années s'accumulèrent, et dans le cœur de Thorin, les braises s'attisaient lorsqu'il ruminait l'injure faite à sa maison et le devoir de vengeance dont il avait hérité à l'encontre du dragon. Et tandis que résonnait la forge sous les coups de son puissant marteau, il rêvait d'armes, d'armées, d'alliances. Mais les armées étaient dispersées, les alliances rompues, et peu nombreuses les haches de son peuple. Et une grande colère sans espoir le consumait comme il frappait le fer rougi sur l'enclume. Puis survint par le plus grand des hasards cette fameuse rencontre entre Gandalf et Thorin. Rencontre qui devait bouleverser les destinées de la maison de Durin et conduire également à d'autres fins plus grandes encore. Un jour, Thorin, rentrant dans l'ouest au terme d'un de ses voyages, décida de passer la nuit à Bri. Gandalf aussi y séjournait. Il se rendait dans le comté qu'il n'avait pas visité depuis une vingtaine d'années. Il était là et comptait s'y reposer quelque temps. Parmi ses nombreux soucis, il s'inquiétait du danger qui planait sur le nord, car il savait déjà alors que Sauron préparait la guerre et que son intention, dès qu'il s'en sentirait les moyens, était d'attaquer Fandeval. Mais pour résister à toute attaque venue de l'est, dans le but de reprendre le pays d'Angmar et les passages du nord des montagnes, il n'y avait plus que les nains des collines de fer. Et au pied de celles-ci s'étendait la désolation du dragon. Ce dragon, Sauron pourrait en faire un terrible usage. Comment donc mettre fin à la menace de Smaug ? Gandalf était précisément assis à méditer ces questions lorsque Thorin se tint devant lui et dit « Maître Gandalf, je ne vous connais que de vue, mais aujourd'hui j'aimerais vivement m'entretenir avec vous, car mes pensées se sont souvent tournées vers vous ces derniers temps, comme si l'on m'enjoignait de vous rechercher. En vérité, je l'aurais fait si j'avais su où vous trouver. » Gandalf le regarda avec étonnement.
« Voilà qui est étrange, Thorin l'écu de chêne, » dit-il, « car j'ai pensé à vous également. Et si je me rends à présent dans le comté, il ne m'a pas échappé que c'est aussi la route qui conduit à vos grandes salles. »
Libre à vous de les appeler ainsi, dit Thorin. Ce ne sont que de pauvres demeures d'exil, mais vous y seriez le bienvenu si vous y veniez, car on dit que vous êtes sage et que vous savez mieux que quiconque ce qui se passe dans le monde, et j'ai de nombreux soucis que vos conseils pourraient alléger.
Je viendrai, dit Gandalf, car je devine que nous avons au moins un souci en commun. Le dragon d'Erebor me préoccupe, et je ne pense pas que le petit-fils de Thror l'aura oublié.
Ce qu'il advint de cette rencontre est raconté ailleurs. Comment Gandalf accoucha d'un étrange stratagème pour venir en aide à Thorin, et comment Thorin et ses compagnons quittèrent le comté pour entreprendre la quête de la montagne solitaire aux répercussions aussi importantes qu'imprévues. Seules les choses qui touchent au peuple de Durin seront évoquées ici. Bard d'Esgaroth terrassa le dragon, mais le Val fut le théâtre de combats, car les orques marchèrent sur l'Erebor sitôt qu'ils eurent vent du retour des nains. Et leur chef n'était autre que Bolg, le fils d'Azog, tué par Dain dans son jeune temps. Dans cette première bataille du Val, Thorin fut blessé à mort, et on l'ensevelit dans une tombe sous la montagne avec la pierre arcane sur son sein. Fili et Kili, ses fils de sœurs, y périrent également. Mais Dain Pied-de-Fer, son cousin, qui vint à son secours des collines de fer et qui était aussi son légitime héritier, devint alors le roi Dain II. Et le royaume sous la montagne fut rétabli comme Gandalf l'avait recherché. Dain se révéla un grand roi et un homme de sagesse, et les nains retrouvèrent puissance et prospérité sous son règne. À la fin de l'été de la même année, 2941, Gandalf réussit enfin à persuader Saruman et le Conseil Blanc d'attaquer Dol Guldur, et Sauron se retira et s'enfuit au Mordor afin d'y être protégé, croyait-il, de tous ses ennemis. Ainsi donc, quand la guerre arriva enfin, le principal assaut fut dirigé vers le sud. Mais même alors, Sauron, de sa main droite tendue au loin, eût pu causer de grands ravages dans le nord si le roi Dain et le roi Brand ne s'étaient mis en travers de sa route. C'est là précisément ce que Gandalf dit à Frodo et à Gimli lorsqu'après la guerre, ils séjournèrent un temps ensemble à Minas Tirith. Des nouvelles étaient parvenues quelques jours avant au Gondor, en rapport avec ces lointains événements.
« La chute de Thorin m'avait beaucoup peiné, » dit Gandalf. « Et maintenant nous apprenons que Dain est tombé à son tour, au Val encore une fois, alors même que nous combattions ici. » Je dirais que c'est une lourde perte, si ce n'était pas un pur émerveillement, de savoir que, dans son grand âge, il ait encore pu manier la hache aussi puissamment qu'on le décrit, debout sur le corps du roi Brand, devant la porte d'Erebor, jusqu'à la venue des ténèbres. Mais les choses auraient pu tourner autrement et bien plus mal. Quand vous songerez à la grande bataille du Pélénor, n'oubliez pas les batailles du Val et la valeur du peuple de Durin. Songez à ce qui aurait pu advenir. feu de dragon et coup d'épée barbare en Eriador, la nuit à Fandeval, le Gondor pourrait ne pas avoir de reine. Nous n'aurions plus qu'à rentrer, après notre victoire ici, vers un pays de cendres et de ruines. Mais cela fut évité, parce que je rencontrai Thorin l'écu de chêne un soir au seuil du printemps à Bri. Une pure rencontre de hasard, comme on dit en terre du milieu.
Dis était la fille de Thrain II. Elle est la seule femme du peuple nain à être nommée dans ses récits. D'après ce que rapportait Gimli, les femmes naines sont peu nombreuses, ne constituant pas plus du tiers de la population, selon toute vraisemblance. Elles sortent peu au dehors, sauf en cas d'extrême nécessité. Elles sont, par la voix et l'apparence, et par leur costume, lorsqu'elles doivent voyager, si semblables à leur pendant masculin, que les yeux et les oreilles des autres peuples n'arrivent pas à les distinguer. Ceci est à l'origine de l'absurde croyance, fort répandue chez les hommes, voulant qu'il n'y ait pas de femmes naines et que les nains soient issus de la pierre. C'est à cause de la rareté de ces femmes que le peuple des nains s'accroît avec lenteur et qu'il est en péril lorsqu'il ne dispose pas d'habitation sûre. Car les nains ne prennent jamais qu'une seule femme ou un seul mari au cours de leur existence et ils sont jaloux comme dans tout ce qui touche à leurs droits. Chez eux, la proportion d'hommes mariés est en fait de moins d'un tiers, car toutes les femmes ne prennent pas mari. Certaines n'en veulent pas, d'autres en désirent un qu'elles ne peuvent obtenir et ne veulent d'aucun autre. Quant aux hommes, ils sont aussi fort nombreux à ne pas s'intéresser au mariage, trop absorbés par le travail manuel. Gimli, fils de Glóin, jouit d'une grande renommée, car il était des 9 marcheurs qui partirent avec l'anneau, et il demeura aux côtés d'Elessar tout au long de la guerre. Il fut surnommé « Ami des Elfes » à cause du profond attachement qui se développa entre lui et Legolas, le fils du roi Thranduil, et de son adoration pour la dame Galadriel. Après la chute de Sauron, Gimli fit venir une partie du peuple d'Erebor dans le sud et il devint seigneur des brillantes cavernes. Lui et ses gens accomplirent de grands travaux, tant au Gondor qu'au Rohan. À Minas Tirith, ils façonnèrent des portes de mithril et d'acier en remplacement des anciennes renversées par le roi sorcier. Son ami Legolas fit également venir des elfes de Verbois et ils vécurent en Ithilienne et se devint comme autrefois le plus beau pays de toutes les terres de l'Ouest. Mais quand le roi Elessar renonça à la vie, Legolas suivit enfin le désir de son cœur et fit voile outre-mer. Suit l'une des dernières notes du Livre Rouge. On a entendu raconter que Legolas emmena Gimli, fils de Glóin, avec lui, en raison de leur grande amitié, plus forte que toutes celles qui ont pu exister entre elfes et nains. Si cela est vrai, c'est pour le moins étonnant qu'un nain ait consenti à quitter la Terre du Milieu pour une quelconque amitié, que les Eldar aient voulu l'accueillir, ou que les seigneurs de l'Ouest l'aient autorisé. Mais il est dit que Gimli s'en fut également par désir de revoir la beauté de Galadriel. Et il se peut que la dame, puissante parmi les Eldar, lui ait obtenu cette faveur. Il est impossible d'en dire plus à ce sujet.